RMC Motors. Laurent Frédéric Bollet.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Motors, votre émission consacrée au sport mécanique tous les dimanches sur RMC entre 13h et 14h et bien sûr que nous repartons pour une nouvelle année au nom de Jean-Luc Roy et de moi-même qui allons continuer à vous présenter Motors en alternance. Eh bien nous vous souhaitons une très bonne année 2018 et nous vous adressons tous nos meilleurs vœux mécaniques. Tout à l'heure nous passerons en revue les dernières nouvelles de la F1, du WRC, on va recevoir en direct Fabio Quartararo, notre grand espoir de la moto de vitesse derrière Johann Zarco. On aura également Jean Ragnotti qui sera des nôtres, mais je vous propose de commencer tout de suite par l'actu la plus chaude. Il s'agit bien sûr du Dakar.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Voilà, le tour de chauffe donc pour commencer ce numéro. Et cette année, le Dakar, qui est le grand événement en matière de sport mécanique tous les débuts d'année, au mois de janvier donc évidemment. Et c'est Benoît Boutron qui est avec moi aujourd'hui, que j'accueille avec sympathie et joie. Salut Benoît.
Salut LFB, salut à tous.
Bonne année à toi également.
Bonne année à toi évidemment.
Et avant de recevoir Bernard Marot qui va être notre premier invité de la saison, juste un petit mot Benoît, on peut révéler que toi tu as une fibre Dakar, oui. Puisqu'au niveau familial tu es concerné. Allez, tu peux le dire.
Exactement, mon papa participe au Dakar.
Et ben
catégorie auto en tant que pilote, donc c'est vrai que j'ai une petite fibre Dakar et que je suis ça avec beaucoup d'attention.
Bon, eh ben écoute, voilà pourquoi nous t'associons à ce premier direct de l'année et à cette première interview que nous allons réaliser tout de suite. Bernard Marot qui est avec nous au téléphone. Bonjour Bernard.
Bonjour à tous.
Bonjour Bernard.
Alors Bernard Marot, il va falloir que je vous représente un petit peu quand même Bernard,
oui.
Mais je crois honnêtement que tout le monde a entendu parler de ce que j'appelle la légende des frères Marot au Dakar, et même Benoît donc qui est là que j'ai fait venir aujourd'hui, qui est une génération plus jeune, hein, je le dis aussi franchement. Benoît,
oui.
Tu connais les frères Marot de nom.
Bien sûr, mais c'est marrant parce qu'on a eu une discussion avant d'entrer dans ce studio et tu m'as dit on va interviewer donc Bernard Marot, et j'ai dit ah bah c'est bien, c'est la légende de la 4L.
Oui.
Et toi tu m'as dit mais oui, mais bon, la 4L c'est pas la voiture qui a gagné au Dakar. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que dans l'imaginaire en fait, quand on pense aux frères Marot, c'est tout de suite la 4L revisitée qui nous revient en tête, évidemment, dans ces dunes. Et c'était pas du tout le même Dakar, évidemment, à l'époque.
Parce que Bernard, avec votre frère Claude, hein, c'est bien donc vous, les frères Marot, vous gagnez le Dakar en 82, mais c'est avec une R20. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se souvenir de cette fameuse 4L. Bon, vous, comment vous voyez ça maintenant?
On voit ça, ça nous échappe un petit peu, hein, je veux dire, on vit quelque chose et puis il y a des gens qui se l'accaparent à un moment parce que en fait ça représente une partie de leur rêve, et je crois que là ça rejoint un petit peu ce que disait Thierry Sabine dans ses premiers rallyes, c'est que il avait créé une épreuve où il allait mélanger les professionnels et les indépendants avec comme arbitre l'Afrique, et c'était pas rien. Donc nous se retrouver dans une Renault 4 à ce moment-là, c'était aussi un choix. On avait choisi cette voiture en se disant que c'était une silhouette qui plairait aux jeunes,
mm-hmm.
et aux moins jeunes, qui parlerait aux moins jeunes et qui plairait aux jeunes parce que c'est une petite voiture marrante. Bon, on a fait ce qu'il fallait pour la rendre un petit peu performante, mais je veux dire que la silhouette était bien celle de la Renault 4, elle, et oui. La première année, c'était très très proche de la série.
Bah, et vous faites cinquième la première année, et vous faites troisième en 80 avec la 4L. C'est vrai que maintenant, ça semble incroyable.
Bah, disons que la première année avec la Renault 4 est bien particulière. C'est vraiment la Renault 4 des petits budgets. On part comme beaucoup à cette époque-là. Il y avait beaucoup de concurrents moto qui partaient, mais vraiment avec quatre fois rien. Nous, on a cet avantage, si l'on peut dire, c'est d'avoir le garage où on peut préparer avec des bases. Et là aussi, c'est un petit peu le choix de la Renault 4 aussi, c'est que on retape énormément d'épaves de Renault 4 pour les revendre au garage, pour faire fonctionner la boutique, hein, tout simplement.
Oui, c'est un garage familial, hein, qui est votre père et vous et votre frère,
ouais,
vous êtes ensuite, hein, vous êtes là prêt à prendre la relève, oui.
Disons qu'à cette période-là, on est nous déjà dans le bain jusqu'au cou, dans la mesure où c'était le garage familial, effectivement, petit garage familial, hein, et initialement où mon papa fabriquait des caravanes de camping, et qu'on a ça a quand même dévié, et mon papa est à cette période malheureusement malade et un cloué dans un fauteuil. Donc on s'est retrouvé nous face à des décisions à prendre et puis à continuer ce que mon père avait créé et surtout à le sauver financièrement. Mm-hmm. Donc ça a été avant et là aussi la Renault 4, il y a aussi une autre raison, c'est que la première voiture qui a été celle de nos aventures et dont on en parle pas tellement parce que ça s'est passé avant, mais on avait fait notre premier grand voyage qui devait être un tour du monde, c'est effectué en fait jusqu'aux Indes pendant 3 mois avec une Renault 4L. Donc on avait aussi déjà une bonne notion de la résistance de ce véhicule.
Alors Bernard, évidemment c'était une autre époque, hein, c'était les années 80, pas de GPS à l'époque, donc c'était vraiment au feeling, il fallait savoir se guider dans le désert. Vous étiez alors des spécialistes, on vous appelait les renards du désert avec votre frère. Quel regard portez-vous sur les courses de rallye raid d'aujourd'hui, que ce soit le Dakar, l'Africa Race, avec, c'est vrai, des GPS qui ont fait leur apparition? Est-ce que c'est toujours le même sport ou est-ce que c'est complètement différent pour vous?
Ben, je crois que le GPS, bien évidemment, on va en parler, mais moi, il y a une chose évidente, c'est qu'il faut resituer le contexte. Quand même, nous sommes dans une période où nous avons la liberté de nous déplacer, ce qui n'est plus aujourd'hui, d'ailleurs, avec la commémoration donc du malheureux Charlie. Mmh. On parle de cette emprise qu'il y a sur l'idéologie et sur la presse, etc. Mais moi, on m'a coupé les jambes. Je veux dire, nous qui ne pensions qu'à la liberté, et la liberté, c'était pouvoir partir de France, aller en Afrique avec n'importe quel véhicule et être accueilli partout. Aujourd'hui, on nous a pris cette liberté fondamentale qui est celle de se déplacer. Donc, voilà. À cette période, nous, il y a déjà cette liberté et deux libertés. La liberté des territoires que l'on peut fréquenter et surtout l'Afrique. Mmh. La deuxième liberté, c'est que on est face quand même, il faut pas l'oublier, à une jeunesse qui pour la première fois est libérée du service militaire. C'est-à-dire que on se prend à rêver d'autre chose. Hein, le rêve avant, il n'y en avait pas. On faisait le service, on rentrait, on se mariait parce que surtout les pauvres gars qui ont fait l'Algérie, ils ne rêvaient plus qu'une chose, c'est la tranquillité, se marier, se retrouver avec un gosse, etc. T'es parti. On parlait pas de liberté. Après, nous, ma génération, s'est trouvée dans cette grande ère de liberté qui ont ouvert la route de l'Inde, la route de l'Afrique, etc. Et on se baladait en Afrique comme on se balade dans le Périgord ou au nord de la France.
Ouais, c'est ça. Non, mais justement là. Tout ce côté un peu bourlingueur là que vous développez, Bernard, ouais. C'est un peu un paradoxe finalement avec vous, parce que là vous symbolisez, quand on parle des frères Marot, la 4L dans le désert, il y a un côté amateur.
Ben oui.
Mais en fait c'est ça le paradoxe, vous n'étiez pas amateur. D'une part, vous l'avez dit, parce qu'il y avait un garage familial où vous prépariez très bien les voitures et vous étiez, ouais, aussi un petit peu aidé par Renault, il faut bien le reconnaître. Donc c'était beaucoup plus pro finalement que nos souvenirs peut-être ne le laissent paraître. Et en plus, quand vous sillonnez le monde dès les années 60 avec votre frère, c'est 10 ans avant le début du Dakar. Ce qui fait que quand le Dakar démarre, pour vous, enfin, je pose la question, hein, j'ai l'impression qu'une petite traversée comme ça de l'Afrique, pour vous, c'est pas si grave que ça, quoi. Vous savez faire, déjà.
Bah, il faut resituer aussi entre nos premiers voyages en Inde qui ont été suivis, d'ailleurs il y a eu 68, on a fait le voyage en 67,
donc oui, 67 c'est 10 ans,
là, ouais. Bien sûr, 67 on fait donc cette notre épopée indienne, ensuite arrive 68 où comme tout un chacun on dit, oh, allez on y va, on se retrousse les manches, on va développer le garage, on avait tout fait pour devenir une agence voire une concession Renault, et puis arrive 68, les crédits sont coupés. Enfin, bon, c'est le grand chamboulement, chambardement idéologique surtout. Et on se retrouve donc là en se disant, mais attends, là on va s'engager dans quoi ? On va se foutre des crédits sur le dos et tout ça. Et tout peut être mis à plat et en question par un événement. Et là, on se remet à penser au Wesai. Et dès 69, on repart faire l'Afrique de l'Ouest à bord d'une Renault 4.
Vous connaissez, ouais, c'est ça.
Mais ce voyage déjà était quand même pour les prémices d'un record de la traversée de l'Afrique, puisque tout de suite après, la Renault effectivement nous aide par sa dotation, c'est-à-dire qu'on fait une tentative de record de la traversée de l'Afrique du Sud vers le Nord à bord d'une Renault 12.
Le Cap Alger, c'est ça.
Le Cap Alger. Tout à fait. Qui donc termine court par rupture d'une traverse arrivée à hauteur de Tessalit, donc sur l'Algérie. Et l'année d'après, la Renault nous donne déjà des moyens supérieurs. d'ailleurs. C'est la naissance de la 12 Gordini et on profite du numéro 7, du 7e pré-proto pour s'engager sur l'épreuve. Et là, on bat le record établi des années avant. 8 jours, 22h et 18 minutes.
Pour faire le Cap Alger. Oui, la Benoît, c'est vrai qu'on se dit, mais comment c'est possible
surtout
ça.
À l'époque, non, mais c'est assez incroyable. Ouais.
En 71.
Et les rôles étaient bien définis, Bernard. C'est-à-dire, vous étiez vraiment le copilote. Et c'est comme Sébastien Loeb et Daniel Elena. Il y avait vraiment des rôles définis.
Non.
Vous preniez le volant de temps en temps.
Pour le record, le Cap Alger, nous étions trois. Il y avait Yvon Garin, qu'on a toujours considéré comme le troisième frère marron. Et Claude et moi, on pilotait le véhicule. Et Yvon, qui avait comme profession la boulangerie, c'est un gars qui savait ne pas dormir. Hein, on avait quand même physiquement... Et c'est lui qui souvent a tenu les notes, alors que Claude et moi, on s'alternait au volant. Ça veut dire que on quittait le siège du conducteur. Celui qui était derrière en train de se reposer se glissait à la place sans arrêter, à la place de l'autre, et puis l'autre allait se coucher tant qu'il pouvait parmi les bagages à l'arrière, les roues de secours, etc. Et puis là, je crois qu'on a connu, ça a forgé une force extraordinaire, et on a effectivement abordé le Paris-Dakar avec un avantage certain sur les autres courses.
Alors je rappelle que donc Bernard Maroux, vous êtes avec nous en direct aujourd'hui pour ce premier numéro de l'année de Motors, on en est vraiment très très content et très fier. Ancien vainqueur du Dakar, la légende veut que vous, les frères Maroux, vous ayez été les premiers à vous inscrire pour le Dakar. C'est une légende ou c'est globalement
non,
vrai?
Non, c'est pas une légende. Il faut se resituer dans le contexte. Bertrand, qui était l'organisateur des rallyes 5-5, donc qui devait être 5 rallyes, 5 continents, pardon, avait mis sur pied son dernier rallye africain, rallye où Thierry Sabine s'est perdu et où nous avons fait connaissance de Thierry Sabine comme concurrent. D'accord. À cette époque. Et quand Thierry Sabine a vu que Bertrand s'orientait, c'était marrant d'ailleurs, vers l'Afrique, l'Amérique du Sud pour créer le deuxième volet de son rallye, eh ben il a créé donc le Paris-Dakar, il nous a appelés et on a été les premiers à s'inscrire au rallye Paris-Dakar de Thierry Sabine.
Bon, bah c'est bien ça. Benoît, une dernière question parce qu'on pourrait passer des heures avec vous, Bernard, mais bon, le temps avance et dans quelques instants on va avoir d'autres invités, mais
votre connaissance du terrain, Bernard, et surtout de l'Afrique, je pense à une course qui est d'actualité, l'Africa Race notamment. On vous a jamais contacté pour devenir organisateur, tracer les étapes d'une grande course de rallye raid comme celle-ci?
Il y a plein de choses qui se sont précisées pour nous à une période, mais qui n'ont pas abouti. Et faut pas oublier qu'en 93, on était en train de tracer avec Patrick Verbois, qui était un ancien du staff du Dakar, un rallye qui devait avoir lieu, qui prenait son départ en Malaisie, en Singapour d'abord, la Malaisie et puis la Thaïlande, et que tout ça s'est effondré en 93 lors d'une première crise importante économiquement. Donc on a abordé, on a également avec le journal L'Équipe fait les reconnaissances de ce qui devait être le premier rallye vers le Paris-Pékin, et bon, là aussi ça s'est terminé, mais on est monté quand même jusqu'au Cachemire et on avait tracé une bonne partie de ce qui devait être le Paris-Pékin en compagnie du groupe Amaury et du journal L'Équipe.
Bon, bah, je crois que le terme globe-trotter, ça s'applique vraiment à vous, Bernard. Donc je rappelle, Bernard et Claude Maroux, vous avez donc gagné le Dakar en 82. Certes, ça ne nous rajeunit pas, mais évidemment, ça reste pour vous, j'imagine, Bernard, votre grand moment de votre carrière sportive. Alors, c'est ma dernière question. C'est comment, finalement, vous êtes fier, à quel point êtes-vous fier de cette victoire? Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018, puisque c'est la période des vœux?
Disons que c'est évident qu'une victoire au Dakar, on crache pas dessus, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça venait aboutir en fait, et c'est assez étonnant parce que même les concurrents du Dakar s'étaient dit, mais les Marrons, faut qu'ils finissent par gagner. On était devenus, nous, les poulies d'or de l'Afrique, faut pas l'oublier. On faisait des podiums, on faisait de bonnes places.
Oui, parce que l'année d'avant, vous manquez déjà, vous êtes en tête et vous abandonnez en 80, après avoir fait 3e et 5e, donc c'est vrai que
on est complètement trahi par les les diamètres de pneus, la faible garde au sol de la Renault 4, etc. On connaît là les limites du véhicule, et c'est ce qui fait que Renault, et alors là on passe vraiment avec les moyens importants, puisqu'il y aura également pour l'année 81 et surtout 82 un hélico qui filme en permanence, qui nous est destiné, qui filme la voiture pour Renault, et Renault là met le paquet, et surtout un homme qui a été un visionnaire invraisemblable de cette période, c'est Michel Roland, qui était directeur des relations publiques à la Régie Renault, et qui lui en 82 met carrément son fauteuil en jeu, c'est-à-dire si on ne gagne pas en 82, il dégage.
Ah oui.
Vous voyez, c'était
un peu pression.
Donc on est quand même avec une pression considérable en 1982, mais c'est quelque chose qui s'enroule, je dirais presque naturellement, parce que très bien préparé, donc on sait que l'on peut, et on fait tout notre possible pour y arriver, bien évidemment.
Bah bravo. Je peux vous demander votre âge, Bernard, sans indiscrétion?
Il n'y a pas d'indiscrétion, 41, 76 ans, voilà.
76 ans, bah écoutez,
ouais, tout à fait.
Bravo, hein, franchement.
Tout à fait.
Et vous suivez le Dakar toujours? Ça vous intéresse toujours?
Ouais. Enfin, je le suis moyennement, dans la mesure où c'est une très belle épreuve, hein, si on avait eu la possibilité, bien évidemment, de le faire, je crois qu'on s'y serait accroché. Mais c'est complètement différent. Je veux dire, ce qui était l'Afrique, ce qui était le désert, ce qui était la solitude de chaque concurrent. Et dans le Dakar, chaque concurrent qui a fait le Dakar aurait un bouquin et des films à tourner. Je crois que chacun a vécu une aventure extraordinaire. Il y avait la solitude du gars qui partait au guidon de sa moto. Il se retrouvait seul. La solitude des gars qui étaient dans la voiture avec un pilote qui était tributaire d'un copilote qui lui donnait l'information. Si le copilote se taisait, il était aveugle et sourd. Donc tout ça, c'est ce continent extraordinaire qu'est l'Afrique. Et là, savoir que l'on ne peut pas y retourner librement, nous, c'est un déchirement.
C'est sûr. Allez, voilà. on va arrêter là cette conversation, mais qui a été passionnante, très intéressante, et vraiment je vous remercie mille fois, Bernard Marot, de vous être libéré pour nous pour ce premier numéro de la saison de Motors, soucis. Parce que ça nous a rappelé évidemment de grands souvenirs, et puis vraiment vous pouvez en être fier, ça c'est sûr, de votre victoire au Dakar. Merci Bernard.
Je vous en prie,
je vous laisse saluer votre frère.
Merci
Claude
Bernard,
de notre part, et à bientôt j'espère. Au revoir.
Oui,
Bernard.
Avec plaisir. Oui,
allez. Voilà Bernard Marot. Alors on a focalisé sur le côté souvenir du Dakar, mais Benoît, dans 20 minutes. On donne rendez-vous à nos auditeurs parce que le Dakar 2018 s'était lancé hier.
Hier, oui.
Et on peut d'ores et déjà dire qu'il y a peut-être eu déjà un coup de théâtre. Hein.
Et oui, avec un Sébastien Loeb
en
qui
difficulté.
Est déjà en difficulté
et
sur
oui.
Peugeot.
Donc cette première étape avec seulement 31 km de spécial, il y a déjà pas mal de choses à dire. Donc tous les résultats de la première étape du Dakar, on vous les donne dans une petite vingtaine de minutes. Mais en attendant, on va recevoir d'autres invités. Motors continue, à tout de suite.
RMC Motors. RMC Motors. Laurent Frédéric Bollet.
Il est 13h26 sur RMC, on est ensemble jusqu'à 14h. On a donc commencé à parler Dakar aujourd'hui. On va tout à l'heure vous reparler du Dakar avec les résultats déjà de l'édition 2018 et la première étape qui avait lieu hier entre Lima et Pisco au Pérou. Mais là, on entame la deuxième partie de l'émission avec deux invités.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite ligne, droite 120.
Le briefing.
Allez, et un invité aussi au téléphone, prestigieux, décidément cette année commence bien, c'est monsieur Jean Ragnotti qui est avec nous. Bonjour Jean.
Bonjour.
Ah, c'est vraiment sympa de ta part, Jeannot, si tu peux me permettre de t'appeler comme ça et de te tutoyer, de t'être rendu disponible pour nous. Ça va Jean?
Merci, oui ça va, très bien.
On t'adresse tous nos meilleurs vœux évidemment pour 2018. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs pour cette nouvelle année Jean?
Oh ben, quand on commence d'arriver à un certain âge, on va dire la santé.
Voilà, c'est ça, ok. Bon, alors Jean, dis donc, on a commencé à parler du Dakar, et tu penses bien que c'est évident en cette période de l'année. Quels sont, toi, tes souvenirs du Dakar? Quel lien avais-tu avec ce rallye raid, évidemment, le plus célèbre au monde?
Alors, ma première participation, c'est le deuxième Dakar en 1980. Avec un Volkswagen Itis, et puis je n'ai fait que deux participations. Hein. Oui. On avait terminé quatrième des autos, et puis en 86, j'étais avec un Range Rover et on avait terminé 18e parce qu'on avait eu quelques ennuis, mais et puis c'était en Afrique. Mais la grosse différence de l'époque actuelle, mais qui date déjà de pas mal d'années, hein, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS et c'était tout à la carte et à la boussole. Quoi. Mm-hmm. Et donc, il y avait des étapes qui se déroulaient très bien. Et puis, de temps en temps, quelques étapes où on avait un peu de mal à trouver les points de contrôle ou les trucs comme ça parce qu'on pouvait faire des écarts assez importants et certains se sont perdus pendant des heures et des heures. Hein.
Ouais. Bon, bah alors, est-ce que tu es en train de nous dire que t'aimais pas ça alors du coup, le côté un peu loterie peut-être de la navigation?
Ah si, parce que moi, en tant que pilote de rallye, j'ai toujours aimé un peu le pilotage à l'improvisation. Et là, j'étais servi, là.
Oui, c'est ça.
J'étais servi à l'improvisation, c'était pas mal.
Mais alors, ce que tu nous dis, Jean, c'est que, je rappelle qu'évidemment, tu as gagné 3 rallyes du champion du monde dans ta carrière. Le Monte Carlo en 81, la Corse en 82 et la Corse aussi en 85. Donc, ces années-là, ce début voilà. des années 80, bah, tu es en activité dans le championnat du monde des rallyes. Et tu viens de nous le dire, tu fais aussi 2 fois le Dakar. Donc à l'époque, on pouvait faire les deux aussi en parallèle.
Oui, on pouvait le faire. Ben, bon, parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance, bien sûr. Les dates n'étaient pas du tout à cheval les unes sur les autres. Et en plus, mon employeur Renault avait la gentillesse de me laisser faire un petit peu ce que je voulais dans ce début janvier.
Bon, bah écoute, tant mieux pour toi. Alors c'est vrai qu'on a souvent dit hein, que tu étais vraiment le Sébastien Loeb à ton époque. Tu as fait plein de choses. Quand tu vois Sébastien Loeb maintenant qui tente de remporter ce Dakar et qui c'est peut-être sa dernière chance hein, en 2018.
Eh ouais.
Toi, tu dis que c'est possible ou finalement tu es le premier à considérer que c'est un peu deux mondes différents, que c'est pas forcément évident de gagner le Dakar quand on est champion du monde de rallye.
Oh, je pense qu'il aurait pu le remporter déjà. Il a eu un petit manque de réussite, peut-être une erreur à un moment donné ou un manque de chance à un autre moment. Mais effectivement, je le vois. S'il gagnait, ce serait pas du tout une surprise pour moi, parce qu'il le mérite largement. Il a la vitesse de pointe qu'il faut, l'expérience. Maintenant, on va dire qu'au bout de quoi, ça fait le quatrième. Je ne me rappelle plus comment il fait.
Oui, c'est ça.
Donc l'expérience, il a un coéquipier solide. Donc je le vois quand même dans mes favoris, quoi. Dans mes favoris. Et s'il gagne, je serai d'abord content pour eux. Mmh. Et je pense qu'il peut vraiment le faire.
Jeannot, c'est toujours un plaisir évidemment de te parler. Je peux révéler que tu as été honoré au mois de décembre par la Fédération française du sport automobile, qui à l'occasion de sa remise des prix de l'année, t'a fait monter sur scène. Et donc on a pu apprendre à cette occasion que tu avais 50 ans de possession d'une licence hein, par rapport à la Fédé et par rapport à ton activité de pilote. 50 ans de licence, c'est incroyable. Hein. Comment tu
relis ça? J'ai commencé en 1967 mm-hmm. et là, en décembre de l'année dernière, on y était. Donc, la fédération et par son président m'a félicité, m'a remercié d'avoir eu de si longues carrières. Et je sais que des licences d'or, moi j'aurais préféré peut-être un Lego, mais bon, une licence d'or c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal et je les remercie, je suis très content.
C'est ça, c'est le terme, tu as reçu une licence d'or, effectivement, témoin de 50 ans d'activité donc professionnelle dans le milieu du sport. Alors, tu sais que tu es connu pour avoir tout piloté, hein. Là, j'annonce à tous nos auditeurs. Le rallye, c'est sûr, ça reste un peu quand même ta discipline de prédilection. Bon, mais on peut rappeler que tu as fait de la monoplace, que tu as été aux portes de la Formule 1, que tu as de toute façon piloté des Formule 1, de manière complètement pro avec des séances d'essai officielles. Le Mans, tu as fait 7 fois les 24 heures du Mans. Bon, mais c'est pas donné à tout le monde.
Une année pour l'opposition, 2 fois 4e, 2 fois 5e.
Bah oui, donc excusez du peu. Et on sait que tu as aussi piloté des camions, des tracteurs, tu as fait des cascades. Qu'est-ce que tu n'as pas piloté finalement?
Mais j'ai gagné aussi le premier championnat de France de rallycross avec une Alpine A310 V6.
Eh ben oui.
J'avais gagné les 24 heures de Chamonix avec une 5 turbo 4 roues motrices. En 88, et puis j'ai fait les 24 heures de ça. Enfin, j'ai fait un peu toutes sortes. Le seul truc qui me manque, ou que j'aurais aimé peut-être faire, c'était les courses de NASCAR aux États-Unis.
Ah, dis donc.
Parce qu'il y a, aux États-Unis, la notion de spectacle est très importante, et moi, j'ai toujours aimé le spectacle. Donc, c'est la, le seul petit regret que j'ai. Pour le reste, même si je n'ai pas été champion du monde ou autre, c'est le seul petit regret que j'ai.
Bon, bah écoute, voilà, il en fallait bien un, mais c'est vrai que ça aurait été une sacrée aventure. En tout cas, Jean, je te remercie là aussi de t'être rendu disponible pour nous. Voilà, on voulait vraiment te passer un petit coucou, te souhaiter une bonne année et rappeler à quel point tu es un personnage hors du commun. Voilà, monsieur Jean Ragnotti était avec
merci,
nous.
Merci, merci beaucoup.
Merci Jean, à bientôt j'espère. Allez.
Au revoir, à bientôt.
Voilà, Jean Ragnotti en direct avec nous, ça fait toujours plaisir. Notre nouvel invité dans quelques instants, mais alors on va faire un petit détour, mesdames et messieurs, par l'actualité sportive qui continue aussi, et ça concerne le ski, la deuxième manche du slalom homme d'Adèle Bodden, avec Morgane Maury qui est sur place et qui est donc notre envoyé spécial. Salut Morgane.
Salut LFB, bonjour
aussi,
à tous.
Ravi de te retrouver, bonne année à toi Morgane. Et la deuxième manche vient de commencer si je ne m'abuse.
Deux skieurs sont arrivés en bas, un troisième est parti à la faute. C'est le départ inversé par rapport à la première manche. Le 30e de la première manche part en premier, bénéficie des meilleures conditions de piste. C'est pour l'instant l'Allemand Stelle qui est en tête, LFB. On attend le passage de trois Français dans la deuxième manche. Jean-Baptiste Grange, double champion du monde, 22e de la première manche. Victor Mufajandé, 20e de cette première manche et beaucoup mieux placé. Alexis Pinturo, 5e de la première manche. Il a le podium en ligne de mire. Meilleur chrono réalisé par l'ogre autrichien, peut-être le meilleur skieur de tous les temps, Marcel Hirscher, mais ça va être une piste compliquée à LFB parce que Adèle Bodden, il fait très chaud et le terrain est très instable, ça ne renvoie pas de force dans les skis de nos pilotes.
Ok Morgane, c'est noté, ben on va vivre évidemment cette deuxième manche en ta compagnie. Merci Morgane. Benoît Boutron est de retour avec nous parce que nous allons accueillir Fabio Quartararo qui est avec nous aussi en direct. Salut Fabio.
Salut.
Salut Fabio.
Et ben là aussi, c'est très sympa d'être avec nous pour ce premier numéro de l'année. Alors Benoît est un féru de sport moto de vitesse.
On te suit toute l'année, hein, Fabio. Oui, hein. On te suit avec beaucoup d'attention, évidemment, dans cette catégorie moto 2 qui est quand même très compliquée. On va pouvoir en parler avec toi, mais juste un petit point d'actualité, Fabio. Que fais-tu actuellement? Est-ce que tu roules? Est-ce que tu te consacres à la préparation physique en vue de la saison qui t'attend et qui va démarrer assez vite, finalement?
Oui, ben je me prépare. Je prépare énormément. C'est vrai que la saison arrive super vite. On pense que 3 mois d'arrêt c'est beaucoup, mais c'est vrai que le temps passe très vite. Donc on n'a pas de temps à perdre. Alors il faut s'entraîner le plus possible pour arriver préparé pour la nouvelle saison.
Mais alors, ce sont des exercices physiques purs ou t'arrives à rouler aussi quand même?
Bah là, on va dire que les conditions sont assez froides, à part vraiment dans le sud de l'Espagne. Mm-hmm. Donc je fais voilà du off-road, du motocross, voilà, et juste avant de reprendre mes SRT, je vais partir 5 jours en Espagne, voilà, rouler avec une.
Fais attention. Hein. Tu vois ce que je veux dire, hein. On entend un pilote moto de vitesse qui nous dit je fais du cross, oulala, ouais. On frémit.
Non, ça va, je fais attention, voilà, et surtout il faut pas dépasser la limite, donc j'arrive à me contrôler. Et voilà, je pense que avant de recommencer les SRT, je ferai une petite semaine de 600, que voilà, c'est super important avant de recommencer.
Alors rappelons à nos auditeurs LFB que Fabio est un petit peu le prodige de la moto en France, la moto de vitesse évidemment. On a beaucoup parlé de Johan Zarco qui a brillé en catégorie MotoGP.
Et qui est de fait notre tête d'affiche en matière de moto de vitesse.
Souvenez-vous que très tôt, on a parlé donc de Fabio Quartararo. Fabio, tu as fait cette saison en Moto 3, tu étais en Moto 2 donc la saison passée. Quel bilan tires-tu de cette saison? Ça a été un peu compliqué pour t'adapter à cette nouvelle catégorie, des nouvelles motos forcément plus puissantes et peut-être plus lourdes pour toi qui est assez jeune, hein, finalement.
Oui, en début de saison, c'était difficile. On avait beaucoup de courses négatives, mais aussi du positif. Voilà, on reste surtout avec le positif et toutes les erreurs qu'on a fait, on essaiera de pas les faire l'année prochaine. Donc j'ai appris énormément de choses même avec une saison difficile, donc je pense que cette année je peux éviter de faire ces erreurs et voilà, et apprendre de plus en plus.
Bah moi j'ai fait mes comptes, hein, messieurs. Fabio, tu fais, si je ne me trompe pas, tu as terminé 10 fois dans les points cette année. Bon, bah écoute, bien, attends, moi ça me semble déjà être pas
ans,
mal, oui.
Compte.
Voilà, parce qu'on rappelle que t'as bien 18 ans seulement, hein. Oui. Tu n'as pas encore 19 ans, hein. Tu as toujours 18 ans. Voilà. Oui, t'as même encore le temps. Bon, donc 10 fois dans les points dans une saison, bah c'est la majorité des courses, tu les termines dans les points, hein. Moi ça me semble pas mal.
Ouais, c'est pas mal, et c'est sûr que quand en étant pilote, on veut toujours avoir plus. Alors c'est pour ça que je travaille énormément pour déjà essayer de faire plus de top 10 cette année, et voilà, et pourquoi pas jouer quelques podiums.
Qu'est-ce qui change vraiment entre le Moto 3 et le Moto 2, Fabio? Puisque on rappelle que le Moto 2, c'est quand même une catégorie, c'est l'antichambre du Moto GP. Rappelons que Johann Zarco a été double champion du monde de Moto 2 avant d'intégrer le Moto GP. Il y a une vraie marche entre le Moto 3 et le Moto 2, Fabio?
Ben oui, c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de changements. C'est surtout le poids de la moto, la puissance, le style de pilotage. Et voilà, et toute l'année dernière, j'ai eu beaucoup de problèmes en début de saison avec le réservoir plein et je fais toujours trop de vitesse de passage dans les virages lents. Donc, c'est ça qu'il faut que je modifie aussi pour.
Oui, Fabio, je vais rappeler aussi qu'évidemment, on va te soutenir. Hein, on est là vraiment pour prendre de tes nouvelles et te souhaiter la meilleure année 2018 possible sur la lancée de 2017. Et tu vas nous parler de ton équipe dans quelques instants. Je vais quand même rappeler à nos auditeurs qu'en 2015, quand tu démarres en Moto 3, tu fais deux fois deuxième.
Hein. Et
oui. Tu es déjà monté sur un podium en Moto 3, qui est là aussi est la petite antichambre du Moto GP. Enfin, ça fait partie des week-ends de course. Et tu avais à l'époque 16 ans. Bon, donc c'est pour toi, ça reste toujours un super souvenir, j'imagine.
Ah oui, c'est sûr que déjà dès ma deuxième course, je suis monté sur le podium. C'était vraiment extraordinaire. Donc surtout qu'à la première course, j'ai réussi à être premier dans l'avant-dernier tour, donc c'était vraiment quelque chose de spécial. Donc voilà, on essayera de refaire ces moments dans la saison 2018.
Alors, parle-nous donc de cette équipe Speed Up. Hein, c'est bien ça, Speed Up Racing. Bon, tu as compris que nous on connaissait pas bien, donc dis-nous exactement où c'est installé, qui c'est qui est derrière et comment ça se passe.
Ben voilà, c'est un constructeur, c'est un cadre Speed Up et c'est voilà des ingénieurs, des mécanos, voilà, qui travaillent depuis un bon bout de temps ensemble. Donc c'est une équipe avec beaucoup d'expérience et on voit qu'il y a beaucoup de pilotes, voilà, qui ont réussi avec cette équipe. Donc je pense qu'en travaillant bien et en faisant un bon boulot, on pourra faire de très bonnes choses.
C'est quelle nationalité?
C'est italien,
hein, c'est ça. Eh oui. Tu coupes un peu tes racines, j'allais dire quasiment espagnol, parce que t'as fait toute ta jeune carrière en Espagne, même si ton nom fait état plutôt d'une origine peut-être italienne. D'ailleurs, je sais pas. C'est quoi?
Oui. C'est d'origine italienne.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, c'est ça. J'étais pratiquement tout le temps avec des teams espagnoles. Et voilà, maintenant il faut que j'apprenne à parler italien, mais bon, j'ai déjà une bonne base. Donc
ouais, c'est ça, on l'imagine bien volontiers. Allez, bonne dernière question à Fabio.
Oui, bah alors forcément, je voulais te parler de Johann Zarco. Nous, on a été bluffés tout au long de la saison par ses performances. Je voudrais savoir, toi, quel rapport tu as avec lui? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as l'occasion de discuter régulièrement? C'est vrai que Moto 3, Moto 2, Moto GP, vous êtes systématiquement les mêmes week-ends sur les mêmes circuits. Tu dois le croiser assez régulièrement. Est-ce que du fait que vous êtes français tous les deux, il te distille pas mal de conseils et il t'aide dans la progression de ta carrière?
Ben, c'est sûr que quand on est en pilote, on se parle pas énormément. Avec Johan, j'ai eu déjà quelques contacts et voilà, c'est vrai que déjà on a parlé ensemble parce qu'on a fait une course de dirt track à Barcelone et on a eu l'occasion de manger ensemble et voilà, il m'a dit quelques petits conseils, quelques petits trucs qu'il faisait quand il était en Moto 2 et je pense que voilà, je les ai déjà mis en application pour voilà, essayer de suivre son chemin comme il a fait en Moto 2.
Juste, t'es impressionné par la saison qu'il vient de réaliser quand même, Johann Zarco, sa première en Moto GP?
Je pense que tout le monde a été impressionné parce que
c'est le rookie de l'année, on le rappelle. Hein,
ouais, c'est le rookie de l'année, voilà. Il a terminé comme devant des pilotes comme Lorenzo. Même s'il a changé de marque, c'est quand même, voilà, il a été trois fois champion du monde en Moto GP.
Ouais.
Donc, c'est exceptionnel ce qu'il a fait dès sa première course, même s'il est tombé, il a passé Marquez, Giannone et il est parti et ça c'est déjà exceptionnel, donc voilà, chapeau à lui.
Ouais, non, il est d'évidence notre locomotive hein, en matière de sport moto de vitesse, Johann Zarco. Mais toi, Fabio, allez, je te mets pas la pression, mais je confirme que tu es derrière et pas loin derrière et au niveau effectivement des couleurs françaises, bah tu as un rôle à jouer et on va te suivre très attentivement en Moto 2 cette année, hein, ça tu le sais.
Ouais. Merci beaucoup.
Voilà. Bon, bah écoute, bravo en tout cas. On voulait vraiment te passer un petit coucou et te souhaiter plein de bonnes choses pour l'année 2018. Et tu sais. qu'on viendra prendre de tes nouvelles aussi régulièrement parce que évidemment ça nous intéresse. Merci Fabio.
Merci. Salut Fabio.
Merci beaucoup.
Voilà Fabio Quartararo. Et effectivement Benoît, bah on est déjà impatients, hein, de savoir comment ça va se passer cette année, ouais, cette année 2018. Et puis toi et moi qui avons aussi une fibre de moto de vitesse dans Motors, hein, bah c'est les grands duels vont reprendre, hein, Marquez, Rossi, Dovizioso, Pedrosa, ils seront tous là.
Rossi s'accroche, il est encore là.
On sait pas combien de temps ça va durer, mais le fait est qu'il est toujours là et on va en profiter. Voilà. Alors tu restes avec moi Benoît parce que dans la dernière partie de l'émission, on va passer un petit peu en revue hein, toute l'actualité des sports mécaniques et on va, comme on vous l'avait dit, commencer par le Dakar dont les premiers résultats enregistrés hier ont vraiment été surprenants. Motors continue, à tout de suite.
RMC jusqu'à 14h, Motors. RMC jusqu'à 14h, Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
Et toujours en compagnie de Benoît Boutron. Donc, comme on vous le disait, on va passer en revue un petit peu l'actualité générale des sports mécaniques. On va commencer par le Dakar. Alors, on va rappeler qu'évidemment, c'est la 40e édition, c'est la 10e en Amérique du Sud. Et il y a, bien sûr, des choses à dire à ce niveau-là.
RMC Dakar 2018.
Le Dakar 2018, donc, c'est parti. Benoît, hier, première étape, hein, Lima Pisco. T'es comme moi, tu te dis, bon, bah voilà, 242 km de liaison, 31 km de spécial.
Au bord du Pacifique.
Ça va démarrer, rien de spécial.
Et exactement. Et premier coup de théâtre, c'est ça, la merveille du Dakar, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Premier coup de théâtre, on attend beaucoup de Sébastien Loeb et de cette Peugeot, qui est forcément extrêmement performante, qui a été beaucoup testée. Rappelons que c'est le dernier Dakar de Sébastien Loeb, en tout cas avec Peugeot, et puis il ne devrait pas y retourner l'année prochaine.
Oui, et puis les Peugeot arrêtent aussi leur programme sportif, donc c'est événement avec Peter Ancel, le vainqueur en titre, bien sûr, aussi.
C'est ça, et premier problème mécanique, malheureusement, pour Sébastien Loeb, qui a été devancé déjà sur cette première étape de 31 km. Grosse performance de Nasser Al-Attiyah, le pilote qatari, qui a remporté donc cette première étape, qui est en tête du classement général, juste devant Ten Brink, qui est néerlandais, et Nicolas Fuchs, qui est péruvien. Stéphane Peter Ancel, on se dit, il est 11e, il est à 2 minutes 15, il est un peu décroché, mais on le connaît, c'est Monsieur Dakar, Stéphane Peter Ancel, on l'a entendu hier après l'étape, en fait il a plutôt géré, il a senti dès les premiers coups de volant que le sable était un petit peu instable, il a vu une moto se planter juste devant lui et il s'est dit, je vais limiter les risques, c'est une toute petite spéciale et les choses sérieuses démarrent réellement aujourd'hui, on a une étape vraiment compliquée aujourd'hui, 267 km.
On inverse presque les chiffres, là c'est 267 km de spécial, une boucle autour de Pisco.
Et 267 km de dunes, quoi qu'il arrive, ce sera très dur pour professionnels et amateurs aujourd'hui, mais grosse perf hier d'Al-Attiyah qu'il faudra surveiller et sur sa Toyota, les deux Toyota d'ailleurs qui font le doublé sur la première étape d'hier en auto.
Tu connais la malédiction en quelque sorte de Toyota qui n'a jamais gagné aux 24 heures du Mans, qui n'a jamais gagné sur le Dakar et qui là cette année retente le pari.
Il reste là tous les ans, voilà. C'est ça qui est fort.
Alors donc première info, Sébastien Loeb qui perd quoi, plus de 5 minutes 30 hein, je crois.
Oui, Sébastien Loeb est à 5 minutes 37 de la tête.
C'est vrai que ça fait un petit peu tâche, mais des gros problèmes de frein, donc c'est ça, il a perdu ses freins dès le début de la spéciale. Exactement. Et pas une Peugeot dans le top 10. Hein, c'est vrai, Peter Ancel est le premier des Peugeot.
Et il est 11e, Stéphane Peter Ancel. On attendait beaucoup également de Cyril Després, qui lui aussi est sur Peugeot avec David Castera à ses côtés. Eh bien, il est 15e, Cyril Després, à 2 minutes 36 donc de Al-Attiyah. C'est vrai qu'on est un peu déçu par les Peugeot. On va pas commencer à les juger, évidemment. Hein, c'est le tout début du rallye. Et on en saura plus, je pense, ce soir à l'arrivée de cette deuxième étape qui est vraiment marrante. Voilà.
Pisco. Alors, je me renseignais. Pisco, une ville d'à peu près de 100 000 habitants au Pérou. Ouais. Qui a donc été détruite, soi-disant, à 70%. Enfin, je veux dire, soi-disant, je fais confiance, évidemment, à ce que nous ont dit les autorités, qui a été détruite à 70% il y a 10 ans pile par un tremblement de terre, un violent tremblement de terre. Donc, c'est vrai que c'est aussi symbolique, j'imagine, que d'aller à Pisco. Et c'est, paraît-il, la boisson péruvienne la plus connue, le Pisco, et ça vient de cette ville.
D'accord,
voilà, c'était mon petit,
petit trente,
voilà, et culturel, j'espère. Mais en tout cas, voilà, ce Dakar est parti, et il est bien parti, et donc déjà, il y a des choses à dire, et tout ça va durer jusqu'au 20 janvier. Vous savez qu'après le Pérou, on ira en Bolivie et en Argentine.
C'est vraiment une spécificité du Dakar en Amérique du Sud. On le retrouve un petit peu tous les ans. C'est pas toi qui vas me contredire. Les difficultés arrivent très, très vite, hein, sur les Dakar sud-américains. Et c'est ce qui fait souvent beaucoup de mal aux coureurs amateurs, puisque tout de suite on se retrouve planté dans les dunes, notamment à Pisco. Ça peut être une étape vraiment galère aujourd'hui, beaucoup de fatigue qui s'accumule, des problèmes mécaniques. C'est pour ça que le Dakar en Amérique du Sud dure une semaine de moins, mais il est peut-être au moins aussi éprouvant pour les
et puis,
pilotes.
Au niveau météo aussi, il y a des températures.
Oui, c'est très chaud.
C'est assez monumental. Ouais. Bon, voilà pour le Dakar. Alors,
juste on dit un mot de la moto. Hein, c'est le tenant du titre, Sam Sunderland, qui est en tête de cette première étape. Il a fait un sacré chrono. puisqu'il a mis 20 minutes 56 pour boucler les 31 km. Donc c'est bien Sunderland qui est en tête. Deuxième place pour un Français, Adrien Van Beveren.
Oui, ex-vainqueur de l'Enduropal du Touquet.
Exactement.
Qui aura lieu d'ailleurs dans 3 semaines. Ils ont avancé cette année l'Enduro du Touquet. Ça sera le 28 janvier prochain. En même temps d'ailleurs que le rallye Monte Carlo. Ouais, bon, allez, pour le Dakar, c'est bon. Alors Formule 1, tu voulais nous parler évidemment d'un nom qui reste mythique dans le monde de la Formule 1.
Et forcément, Michael Schumacher, on y pense tous à Michael Schumacher. Il vient de fêter ses 49 ans, Michael Schumacher. On rappelle, il était né le 3 janvier, l'un des plus grands pilotes de Formule 1 de l'histoire, hein, Michael Schumacher. Pas de nouvelles récentes de son état de santé, c'est ce qui commence à nous inquiéter. On rappelle qu'il a eu un grave accident de ski il y a quelques années et que désormais il vit dans un bunker en Suisse d'où aucune info ne filtre malheureusement sur son état de santé. Pas de nouvelles précises à donner, mais forcément les hommages qui se multiplient à chaque fois à cette date, puisqu'il avait eu cet accident à quelques jours de son anniversaire.
Voilà, non, évidemment qu'on voulait remettre un petit coup de projecteur sur un nom aussi légendaire, Michael Schumacher, donc qui a fêté ses 49 ans le 3 janvier dernier, donc il y a 4 jours seulement. Alors, voilà, soyons honnêtes, on ne sait pas. Et effectivement, ce n'est pas un défaut d'enquête journalistique, mais c'est une volonté de la famille.
Mais tout est fait pour qu'on ne sache pas.
Hein. Oui,
son attaché de presse est très clair là-dessus. À chaque point presse sur l'état de santé de Michael Schumacher, elle dit clairement, voilà. Je n'ai pas d'infos précises à vous donner, je ne vous en donnerai pas. Et tout est fait pour empêcher les paparazzis de pouvoir prendre des clichés de Michael Schumacher, puisqu'on ne sait pas du tout dans quel état il est. On ne sait pas s'il peut marcher, on ne sait pas.
Il y a eu des rumeurs, bien sûr, oui, voilà. Bon, on va pas rentrer là-dedans. C'est évident qu'il y a une partie de sa maison qui a été médicalisée où il est, en Suisse, mais ça ressemble effectivement un petit peu à une propriété privée dans laquelle on ne pénètre pas, ça c'est sûr. Il y a eu juste ces derniers temps une déclaration de son ancien manager lorsqu'on voyait Michael Schumacher en activité. Willy Weber, il s'appelle, allemand aussi. Il y avait toujours Willy Weber à ses côtés, c'était vraiment son agent. Et Willy Weber, lui-même, dit maintenant, faut communiquer. On ne peut pas nous laisser dans l'ignorance. Il faut dire des choses. Alors, voyez, voilà, chacun pense un petit peu de façon différente peut-être, mais c'est notre façon aussi aujourd'hui de dire qu'on n'oublie pas évidemment Michael Schumacher, qu'on s'associe à ce hashtag qui est très connu, Keep Fighting Michael, c'est en anglais, mais évidemment on le partage et on s'associe effectivement à la douleur d'une famille, c'est évident. Maintenant, non, c'est vrai, on est aussi comme tout le monde, comme tous nos confrères, on attend des nouvelles.
Et puis on commence à voir ses enfants, notamment son fils qui fait du sport auto, donc forcément ça nous rappelle son père, c'est très compliqué, la famille Schumacher reste très présente dans le monde du sport auto.
Voilà, donc en tout cas, bonne année. Anniversaire à Michael Schumacher qui a fêté cette semaine ses 49 ans. J'en profite juste pour te dire, Benoît, que au niveau comme ça des petites news en passant, le Nürburgring s'est positionné pour accueillir de nouveau le Grand Prix d'Allemagne. Bon, c'est un circuit évidemment très fameux à partir de 2019. Tu sais qu'en 2017, il n'y a pas eu de Grand Prix d'Allemagne. C'est quand même incroyable.
Ah oui,
Nico Rosberg tenant du titre, Mercedes équipe de pointe, pas de Grand Prix d'Allemagne. Donc en 2018, nous allons célébrer de retour le retour du Grand Prix de France, bien évidemment après 10 ans d'absence, on aura largement le temps d'en reparler, et le Grand Prix d'Allemagne qui quand même a réussi à retrouver une place, et il y aura peut-être donc cette alternance à partir de 2019 avec le Nürburgring.
Voilà. Et si on parlait de Fernando Alonso, tu me parlais de Formule 1, on va en parler, Fernando Alonso qui va de nouveau s'échapper de la Formule 1 et qui va participer aux 24 heures de Daytona, donc évidemment cette course mythique aux États-Unis qui aura lieu les 27 et 28 janvier. On le sent, il s'ennuie un petit peu en Formule 1, il est très frustré parce qu'il ne peut pas combattre pour le titre de champion du monde, du coup il va un petit peu voir ailleurs et il devrait donc s'exprimer sur ces 24 heures de Daytona lors de l'édition 2018. Bah, ton avis là-dessus, LFB, qu'est-ce que tu en penses?
Est-ce
qu'il a raison de le faire déjà?
Alors c'est pas moi, évidemment, commentateur de sport mécanique qui vais me plaindre de voir une personnalité aussi emblématique avoir un parcours un peu éclectique et d'avoir d'autres horizons. Moi, Lewis Hamilton, évidemment, qui est le meilleur pilote actuel en Formule 1, quand il dit, moi, les 24 heures du Mans, ça m'intéresse pas, je respecte sa décision.
Et ça, c'est complètement différent, ça.
Oui, bien sûr. Mais ça me chagrine un petit peu parce que on aime bien que des pilotes relèvent des challenges. Donc, quand Fernando Alonso tente Indianapolis l'année dernière, j'applaudis évidemment dès demain parce que là, c'est un sacré challenge. Et quand on apprend qu'il veut envisager déjà l'endurance et que pour se mettre dans le bain, il va faire les 24 heures de Daytona, eh bien, je dis bravo. Alors, c'est sûr que pour lui, c'est différent. Bah, c'est un proto. C'est un circuit avec une bonne partie qui se déroule sur un ovale à 33 degrés d'inclinaison. Je vous laisse imaginer. Hein, c'est mieux qu'une piste de cyclisme sur piste.
Ce qui est génial avec Fernando Alonso, c'est qu'il aborde ça en toute humilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas là à dire, à clamer qu'il est là pour gagner ou quoi que ce soit. C'est vraiment lui, une envie qu'il a et qu'il a envie de participer à cet événement. événement international qui est un événement aux États-Unis évidemment.
Mais parce que pour tous les pilotes même de beaucoup
là-bas,
d'horizons.
C'est impressionnant.
Ouais, mais ça sert aussi d'entraînement. C'est vrai que c'est un peu la première grande course de l'année en endurance et traditionnellement, c'est 24 heures d'étape qui appartiennent à un championnat d'endurance en Amérique du Nord, rassemble effectivement les bonnes volontés de pas mal de pilotes qui viennent faire la course pour aussi se garder en forme. Et je crois que je me trompe pas, Lance Stroll, pilote et
oui,
activiste, il va faire hein, ces 24 heures de Daytona.
Après, c'est pas Fernando Alonso, c'est pas la même aura, évidemment, ce n'est pas la même carrière en Formule 1, mais ça reste à noter.
Donc Alonso à Daytona, on va surveiller ça, c'est dans 3 semaines. Alors ce même week-end, il y aura l'Enduro du Touquet, il y aura les 24 heures de Daytona et il y aura le rallye Monte Carlo.
Et on va en parler du rallye, et oui, puisque le rallye Monte Carlo, on attend qui? On attend Sébastien Loeb, normalement, puisqu'il aura terminé le Dakar.
On
verra s'il sera là.
Non, c'est sûr. Il a été annoncé. Il fait le Tour de Corse, donc au mois d'avril.
Voilà.
Le rallye du Mexique et
l'Espagne. En termes de souviens-toi, on en avait parlé ensemble, on s'était dit c'est pas possible.
Il aurait vraiment fallu qu'il saute dans un avion, en admettant qu'il soit à l'arrivée en Argentine, évidemment, qu'il saute dans un avion dès le soir et qu'il soit pratiquement le matin en train de rouler aux reconnaissances du Monte Carlo, c'était un peu juste. Même si sur le papier ça pouvait peut-être passer. Donc plus raisonnablement, on a bien annoncé là il y a quelques jours que Sébastien Loeb ne ferait que 3 rallyes en 2018.
Et tu sais que ça va peut-être grincer les dents du côté de Citroën.
Et bah oui, il y a une déclaration.
Voilà, le pilote star Chris Meek a critiqué justement cette décision de Citroën qui a décidé donc pour certains rallyes de remplacer le pilote numéro 2 Craig Breen par Sébastien Loeb pour ces 3 rallyes dont tu parlais. C'est un petit peu particulier quand le pilote star d'une écurie critique ses patrons et dit que la solution choisie est la mauvaise. Après, on le sait que le WRC c'est un peu particulier avec justement des pilotes qui peuvent venir faire une ou deux piges mais ça reflète une très bonne ambiance à Citroën.
Ça m'a surpris et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Ce sont les deux meilleurs pilotes de chaque équipe qui marquent des points. Donc le jeu en WRC, c'est d'aligner 3 voitures pour être sûr qu'il y en ait bien 2
exactement.
À l'arrivée. Hyundai va avoir 3 voitures, chez Ford on aura 3 voitures. Bon. Non, là la surprise elle vient que Citroën n'aura que 2 voitures titulaires si j'ose dire au début de chaque rallye. Quand Sébastien Loeb va venir faire ses 3 piges, il va remplacer le numéro 2, il sera pas sur une 3e voiture.
Ouais.
Et c'est vrai que ça c'est une surprise. C'est vrai que c'est pas complètement signe d'une ambition démesurée chez Citroën, ça faut être honnête. Mais que Chris Meek se soit exprimé. Alors il y a peut-être une carte anglo-anglaise, tu vois ce que je veux dire, il a peut-être défendu son compatriote Craig Breen qui restera à la maison sur 3.
Et puis peut-être qu'il vit mal de voir un onuple champion du monde bien le rejoindre à ses côtés. Imaginons que Loeb fasse mieux que Meek.
C'est
compliqué à gérer pour lui forcément
pour
son ego.
C'est évident qu'il y a un petit jeu là de diplomatie, de positionnement dans une équipe à régler, c'est ce qu'on a toujours dit qui se passerait chez Citroën.
Exactement.
Surtout qu'à l'époque on parlait d'Ogier éventuellement.
Bon c'est pour ça qu'on a milité pour qu'Ogier soit chez Citroën. Bon on n'a pas été écouté.
Bon allez. Là, on en a pris notre parti. On sait que ça n'aura pas lieu, que Ogier reste chez M Sport, l'équipe privée anglaise, qui sera un peu plus soutenue par Ford.
On espère qu'il sera champion du monde tout de même.
Voilà, tenter d'aller chercher un 6e titre de champion du monde, ce qui lui mettrait encore plus dans la légende des sports mécaniques français et même mondiaux, n'est-ce pas, Jean-Christophe Drouet, qui
évidemment.
Nous rejoint. Hein,
salut, Laurent Frédéric.
Je suis tout à fait d'accord avec notre assertion. Je vais remercier Benoît d'avoir été longuement avec moi aujourd'hui.
Avec plaisir.
Tu es le bienvenu, Benoît, bien sûr, à chaque numéro de Motors. Et Jean-Christophe, eh bien, je te souhaite une bonne année 2018.
Et bonne année.
Et déjà,
tous mes vœux
une bonne intégrale sport pour démarrer cette année.